Homélie pour la fête de Noël, prononcée dans un monastère africain. Enregistrement de qualité très médiocre.
Après, vous êtes définis, nous pensions d'abord à demander dans ce que la Bible appelle les ténèbres et l'ombre de la mort, parce que c'est pour eux d'abord. C'est pour le monde entier, et non pas seulement pour les croyants, que Dieu est venu, que Dieu s'est incarné, qu'un enfant nous a été donné, et que la Vierge a mis au monde cet enfant. C'est d'abord pour tous ceux qui croient. Et c'est la seule fête de toute l'année où Dieu ne demande absolument rien aux hommes, pas même la foi. Il leur dit, vous avez un sauveur. Et s'ils répondent, vous n'y croyez pas, il leur dit, ça ne fait rien, vous avez un sauveur quand même. Et les hommes le sentent. Et les incroyants le sentent. Ils sentent que cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Ils le sentent confusément, obscurément, à leur manière, dans ce qu'on appelle leur inconscient. Mais il n'existe peut-être pas un seul homme qui, ce soir, me sent un espoir confus travailler son cœur, et que dans cette nuit, il y a tout de même quelque chose entre les hommes qui devraient exister toujours. Nous sentons bien que ça devrait exister toujours. Et nous nous demandons, mais enfin pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à s'aimer? Ce serait simple, ce serait facile. Et oui, ce serait simple, ce serait facile, mais on n'y arrive pas. Mais cette nuit, tous les hommes sentent, il suffirait peut-être de très peu de choses pour que ça arrive, pour qu'un royaume d'amour passe parmi nous. Et beaucoup qui ne croient pas sentent tout de même encore une fois qu'il y a une joie cette nuit qui est d'une qualité insaisissable, insoupçonnable. Et alors nous devons nous faire peuple, nous devons nous faire humanité, nous devons accepter de nous plonger nous un peu, nous chrétiens qui soi-disant avons la réponse, mais qui ne croyons pas beaucoup. Eh bien, il faut nous plonger avec toute l'humanité dans son angoisse, dans son attente, dans sa détresse. Parce que c'est pour ces gens-là, et nous devons en être, que Dieu est venu dans le monde parce qu'il a eu pitié de notre détresse et qu'il a eu pitié de notre incrédulité. Et c'est la première chose qu'il faut faire cette nuit, c'est de nous plonger avec l'humanité tout entière dans cet espoir confus que quelque chose d'invisible, d'insensible, de secret, qui va rien changer du tout, et qui va tout changer quand même, descend dans le monde, sur le monde, cette nuit. Et puis, parce que nous sommes chrétiens, alors nous devrions nous-mêmes essayer d'y croire à Dieu. Si nous sommes ici, c'est que nous ne sommes pas des incroyants, mais malgré tout, nous sommes des hommes de petite foi. Et nous avons beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de la réponse qui nous est donnée par Dieu. De croire vraiment que le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, qui pouvait tout anéantir en un instant, que le Tout-Puissant nous est donné sous la forme d'un tout petit enfant. Impuissant, le Tout-Puissant. Et nous devons accepter de comprendre que cet enfant, c'est un aspect de Dieu. C'est le visage que Dieu veut avoir pour nous d'abord, et auquel il veut que nous croyions d'abord. Si Dieu ne fait pas plus de choses pour nous apparemment, c'est parce que nous ne le comprenons pas. Et nous ne comprenons pas que Dieu est un enfant infini, et un enfant qui veut entrer dans la scène du monde sans faire de bruit, sans gêner, sans se faire remarquer, avec délicatesse, avec timidité, de façon à n'être reconnu que par ceux qui brûleront un peu d'amour pour lui. Un enfant, ça peut changer la vie d'un homme, ça peut changer la vie d'une famille, ça peut changer la vie du monde. Seulement pour cela, il faut que nous acceptions d'être touchés et de croire. Et il faut que nous ne demandions pas trop de comptes à Dieu, sous prétexte qu'en apparence il ne fait rien. La nuit de Noël est la nuit qui nous offre la réponse la plus profonde au mystère du mal. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Pourquoi est-ce que Dieu patiente? Pourquoi est-ce que Dieu attend? Il est venu cette nuit comme un enfant, et ça ne change rien. Eh bien si, ça change tout, mais pas comme nous l'attendons. Et il existe un homme, un prêtre, qui a parcouru le monde entier, a soulagé les détresses de l'Église, de tous les hommes qui gémissent sous la persécution ou qui gémissent dans la pauvreté et dans la misère. Il a parcouru le monde entier. Et il nous dit, cet homme, que s'il n'avait pas perçu une nuit, une certaine nuit, justement, ce que c'est que l'action de Dieu dans le monde, sa foi aurait fait naufrage et il n'aurait jamais pu supporter le spectacle des misères qu'il a affrontées, qu'il affronte toujours. Il se nomme le Père Erevin-Bastraden, et après les lectures qui nous ont été faites, je voudrais terminer par la lecture d'une part où il nous confie cette découverte qu'il a faite et qui me semble résumer le climat, l'esprit, la lumière, la vraie certitude de la joie de l'homme. Avant que je ne commence mon pèlerinage à travers les régions de détresse de cette terre, Dieu m'a fait comprendre le sens profond du mal. Sans cette compréhension, acquise pendant les années de guerre, dans la solitude de ma cellule de l'abbaye de Congerio, ma foi aurait fait naufrage dans l'océan de misère sur lequel je dois naviguer sans défi. Après tant d'années, je veux essayer de rassembler les idées qui me sont venues quand, jeune frère, je luttais avec le problème du mal. C'est arrivé un soir d'été, quand je me trouvais dans ma cellule, tous les bruits s'étaient éteints. La violence de la guerre, le ronronnement des bombardiers et l'aboiement de la DCA s'étaient vus. Il ne restait qu'un silence fragile, tendu subtilement d'étoile en étoile comme un fil d'araignée et couvrant la terre et la paisible abbaye. Il me parle que Dieu travaillait dans ce silence, que sa main caressait ce monde, en touchant l'essence même des choses et des âmes. Une grande main, créatrice et réparatrice, douce comme la main caressante d'une mère. Était-ce cette même main qui d'un seul geste avait arraché aux abîmes du néant mille constellations? Oui, c'était la même main, aussi puissante et grande, mais attentive maintenant comme la main d'une infirmière au chevet d'un malade. Dieu est incompréhensible. Il arrange lui-même le lit de l'humanité souffrante. Avec précaution, il occulte les plaies et soutient les membres brisés, car il ne peut pas haïr ce qu'il a fait, et il ne peut détester aucune œuvre de ses mains. C'est pourquoi, dans le silence de son crépuscule éternel, quand l'humanité dort et que seules des étoiles muettes sont les témoins de son amour, il ne cesse de recréer et de régénérer la terre. La main de Dieu caresse la terre. Son doux visage se penche avec sollicitude sur ses blessures. Créateur et restaurateur éternel des choses, il se promène au paradis abîmé pour changer en bien le mal des hommes. Si ce n'était pas possible, il ne le permettrait pas. Il nous barrerait les sentiers de la méchanceté. Serein et grave, comme un enfant qui joue au bord de l'eau, il laisse couler les ruisseaux de peine par le creux de sa main jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres de condition et de pénitence. Dieu renouvelle la face de la terre. Il se couvre au chevet de l'humanité souffrante pour la guérir. Il orne de gloire l'œuvre hideuse de ces créatures insensées. Là où ses doigts lumineux caressent avec amour les choses, la création s'étale dans une douce lueur. Ce soir-là, étonné comme un petit garçon, j'ai saisi quelque chose du mystère du mal. Ma Bible était ouverte au texte, voyez, je renouvelle tout. Et lorsque Dieu, du lointain de son immense ciel étoilé, s'approcha et remplit ma cellule de sa présence, je n'ai pas eu peur, parce que, avec tous les autres, je me savais porté et abrité au creux de sa main.